à prier et à nous placer devant Dieu. Prions. Père éternel, ce matin, Seigneur, nous nous plaçons devant toi pour ta gloire. Nous te prions, Seigneur, pour que ta parole puisse nous parler, elle, ta parole directement, toi, dans nos cœurs, et que tout ce que nous fassions soit pour ta gloire. Viens t'honorer. Au nom du Christ. Amen. Est-ce que tu peux projeter la première diapo? Là, vous savez le schéma de la prédication qui se déroulera foncièrement sur trois points. Là, vous voyez donc le texte biblique de référence et les trois points principaux. Par la suite, il y aura une diapo pour chacun des points. Et dans ces points-là, il y aura les idées clés de ce point. Les idées clés de ce point. L'art de la répétition dans l'éducation. Vous vous êtes forcément arraché les cheveux plus d'une fois dans votre vie, dans votre rôle des parents, dans le cadre de l'éducation de vos enfants. En tout cas, c'est mon cas. Tiens-toi droit! Mets ta main sur la table, range ta chambre. Mets tes baskets vite, mais vite, vite. On va être en retard. Le linge sale, comme son nom l'indique, c'est dans le panier à linge sale. Et pour le manteau, il y a bien un objet qui porte très bien son nom et qui s'appelle porte-manteau. À table. À table. J'ai dit, à table, à table. Alors, comment éviter de répéter mille fois les choses à ses enfants et survivre à une éducation faite de répétitions et puissantes? C'était l'intitulé d'une émission sur France 2 il y a quelques jours. Il me semble que ce n'est pas anodin. On a partagé la Sainte Cène, on a chanté le retour de Christ. Jésus, lors de cet repas pascal avec ses disciples, il est venu leur dire « Faites ça en mémoire de moi. » Maranatha. Qui souvent, on va le traduire comme « Jésus reviendra ». Nous discutons le jour avec un théologien mennonite, exégète, spécialisé du Nouveau Testament. Il me disait que le mot Maranatha peut être traduit également comme Jésus qui est déjà venu. Dans les deux sens, Jésus qui est déjà venu et Jésus qui viendra ou qui reviendra sont contenus dans cette expression. Faites ça en mémoire de moi pour nous rappeler l'œuvre de la croix. Notre vie qui commence dans ce point-là, la croix nue. Et qui nous rappelle Christ qui est mort, sa mise en tombeau, sa résurrection et sa glorification, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, il est assis à la droite des dieux. Faites ça en mémoire de moi. L'art de répéter, c'est aussi un sujet majeur dans les Écritures, autant dans le Premier Testament ou au Nouveau Testament. J'ai tendance à dire Premier Testament, comme dans le Nouveau Testament ou le Deuxième Testament. Et ce matin, par cette illustration, je vous introduis dans le sujet d'aujourd'hui. Vous savez, avec Dieu, ce n'est pas si différent que ça, cette question de la répétition. L'art de répéter ou de rappeler les choses. Un pilier de la question d'éduquer quelqu'un. Pas pour rien, Torah veut dire enseignement. Et répétition aussi. C'est bien par le don de la Torah que Dieu ratifie son alliance, ou l'alliance conclue avec son peuple. Et c'est dans la Torah qu'il lui montre le chemin à suivre pour réaliser sa vocation du témoin du Dieu unique parmi les nations. Comme ils disent les Juifs, la Torah écrite, voulant mettre l'accent sur l'idée d'un document, d'un témoin écrit que l'on peut lire, et étudier, et relire, et réétudier, sans cesse, pour ne pas oublier. Vous voyez déjà un petit peu où je vais. Dans le Premier Testament, l'invitation « souviens-toi » comme expression apparaît presque 169 fois. Se dire l'importance de la mémoire dans les Écritures, constitutive d'une identité forgée dans une longue histoire. Elle n'enferme pas, d'ailleurs, dans le passé, mais oriente vers l'avenir. Maranatha, Jésus qui est déjà venu et Jésus qui viendra. Notre point de départ et notre point d'arrivée. Là où Dieu nous invite à tourner nos yeux. Elle n'enferme pas dans le passé, mais il nous oriente aussi vers l'avenir. La Bible hébraïque multiplie les injonctions à se souvenir. Le verbe « sakar » en hébreu, « souviens-toi », dans ces différentes conjugaisons apparaît, comme dit, j'ai dit tout à l'heure, 169 fois, excusez-moi. Et quel que soit le thème abordé, l'on appelle à la mémoire ou à son antonyme. On peut le regarder aussi de l'autre côté. Ne surtout rien oublier. C'est un commandement absolu, un impératif qui incombe pas seulement à Israël, mais aussi à Dieu lui-même, auquel le texte rappelle qu'il doit, lui aussi, mais parce qu'il l'a voulu ainsi, se souvenir de son alliance avec Israël. Je fais référence au psaume 44. Et il en sera de même aussi avec son alliance avec nous, l'Église. Premier point, je te prie, Vincent, si tu peux mettre la première diapo, avec les deux idées clés de ce point-là. Et pour ça, concrètement, je vous propose d'étudier avec cette perspective de l'introduction un récit biblique dans l'évangile de Luc. Il s'agit en effet d'un enseignement donné par Jésus à ses disciples au chapitre 17. Cet enseignement aura lieu juste après que Jésus ait répondu aux pharisiens la question de quand le royaume des dieux viendrait. Les pharisiens étaient intéressés particulièrement à connaître le moment, la date, quand. Jésus leur répondit. Je cite, « Le royaume des dieux ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume des dieux est au milieu de vous. » Gardons ça en tête. Ensuite, Jésus s'adressa à ses disciples, il leur enseigna ceci. Chapitre 17 de Luc, verset 22 à verset 25, dans sa globalité. Je vais lire le verset 23 et 24. On vous dira, voilà, il est là-bas, en parlant du Christ. Ou bien, voici, il est ici. N'y allez pas. N'y courez pas, leur a dit Jésus. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, en son jour, sera là. Jésus répète. Avec une autre formulation, ce qu'il venait de répondre aux pharisiens. Il y a des similitudes, mais ce n'est pas exactement pareil. Les disciples étaient là aussi avec lui, donc ils sont forcément bien entendus la réponse que Jésus a donnée aux pharisiens. Mais là, il s'est retourné vers eux et il leur a dit cela. Jésus avertit ses disciples, et nous aussi aujourd'hui, nous met en garde de ne pas courir après des faux Christ, parce que lui, et le seul et l'unique Christ, Jésus, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, et il n'y a pas d'autre. Le signe plus caractéristique de son retour sera qu'il viendra, et ce qu'il faudra retenir essentiellement, justement, c'est qu'il viendra en un instant, en un clat d'œil. Il ne préviendra pas. J'arrive. Il reviendra tout simplement, comme ça. En Matthieu 24, 4 à 5, Jésus dira, sur ce même sujet, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs plusieurs pardon, viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront, et c'est moi qui ajoute, quand même, beaucoup des gens. Matthieu 24. De son côté, Pierre, un des disciples de Jésus, va nous rappeler en 2 Pierre 3 quelque chose de primordial quant au retour de Christ. Pour que nos cœurs ne défaillissent pas. Pour que nos cœurs ne se découragent pas. Pour qu'on ne pense pas, au cas où, que Dieu nous a oubliés. Et donc, que nous n'oublions pas que notre Dieu est fidèle. Pierre nous dira, le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Jésus fait comprendre à ses disciples que la question importante n'est pas de savoir quand que le Fils de l'homme viendra, ou plutôt reviendra, sinon de faire attention à comment le Fils de l'homme nous trouvera lors de son retour. Dans quelle attitude serons-nous en train de l'attendre lors de son avènement? Et par conséquence, Jésus nous interpelle, il s'est préparé. Il nous met en garde. Quelques versets plus tard, au début du chapitre 18, Jésus dira à ses disciples, aux mêmes disciples, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, nous dit Matthieu 24. Il réitère cette déclaration aussi en Matthieu 25 et par ailleurs dans d'autres textes également. Qui voulait-il dire par là? Et à quoi devrions-nous veiller plus exactement? Ce qui est clair, c'est que c'est un sujet important. Déjà le fait que ce soit un sujet que les évangiles répète ou rappelle, souvent, c'est un signe de cela. L'apôtre Paul écrit à ce sujet aux Corinthiens en leur disant à l'église de Corinthe, « Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes ou des femmes, fortifiez-vous. » Paul ne nous disait pas d'être des spectateurs passifs, sinon on interpelle les chrétiens à veiller. Lorsque le Nouveau Testament nous commande de veiller, ce mot prévient en général de la traduction de l'un des mots grecs grégoueo ou agoupneo, qui ont des significations similaires. Rester éveillé ou ne pas s'endormir. Elles sont généralement utilisées dans un sens métaphorique et spirituel, qui veut dire être vigilant, sur ses gardes. Restez tout à fait éveillé, conscient, alerte et intensément concentré à ce qui se passe. Où est-ce qu'il va se passer? Ne désespérons pas. Soyons patients et ayons confiance en notre Dieu et dans l'accomplissement de ses promesses. Serons-nous en train de l'attendre lorsqu'il reviendra? Quand il viendra, trouvera Jésus une église, les yeux tournés vers le ciel? Une église qui l'attend avec ferveur et que, par conséquence, vit une vie qui plaît Dieu? Une vie qui porte des fruits? Je termine cette partie avec le premier verset du chapitre suivant. Chapitre 18, verset 1 de l'Évangile de Luc, avec ces paroles que Jésus adressa à nouveau. Je dis bien à nouveau. Principe de la répétition que j'ai évoqué tout à l'heure. Il s'adressa à nouveau à ses disciples en leur disant qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. Je passe au deuxième point. Dans un sens, si tu peux. Donc, toujours pareil, les versets de référence dans le chapitre que je je vous ai proposé et les points centrales de ce point-là. En effet, du verset 26 au verset 30, Jésus enseignera ses disciples sur une question capitale pour notre vie chrétienne d'aujourd'hui. Les exemples issus du passé, du temps de Noé et du temps de Lot, que Jésus fournit nous aident à comprendre ce dont il s'agit quand il nous parle de vivre une vie selon Dieu. Loin du regret ou loin de la nostalgie du passé et de nos désirs pressants qui peuvent nous détourner de Dieu, qui peuvent nous détourner de l'essentiel. Je rappelle que Dieu, notre Dieu, n'est pas un Dieu ravageois et qu'il a aussi des projets de bonheur pour chacun de vous, pour chacun de nous. Ensuite, entre le verset 26 et verset 30, Jésus établit une description avec des éléments communs aux deux histoires, celle du temps de Noé et celle du temps de Lot. Il dresse un tableau de la société de l'époque, comme l'être humain vivait et il se comportait sans Dieu, et peut-être dans le cas de Lot et sa famille, loin des dieux. Deux histoires qui nous rappellent le jugement de Dieu à l'époque de Noé. C'était toute l'humanité qui fut jugée. Et à l'époque de Lot, c'était Sodome et Gomorrhe. Lisons ces versets. Verset 26. Comme cela s'est passé dans les jours, comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le diluge qui les fut tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour de Lot, où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Et verset 30, cela se passera de la même manière. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. Quel constat ? En effet, Jésus termine cette partie en établissant un triste constat. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme reviendra ou se révélera. C'est une affirmation. Il nous met en garde pour que nous-mêmes, nous ne soyons pas attirés par cette influence qui nous entoure. Le triste constat d'un monde qui aura oublié Dieu, qui sera détourné du Créateur du monde. Le triste constat d'une société, d'une humanité qui aura, et je cite Romains 1, changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui aura adoré et servi le Créateur, la créature, pardon, qui aura servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Humanité qui n'aura pas tenu compte de l'avertissement de Deutéronome 8, 19, que je cite. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et tu te posternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périssez. Et bien que ces paroles étaient adressées au peuple d'Israël, et sont valables aussi pour l'humanité dans son ensemble. Paul dira, dans cette même perspective de ce constat, en 1 Corinthiens 15, 32, « Si le mort ne ressuscite pas, mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. » Ne vous trompez pas, nous exhorte Paul. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, dit Paul, comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Vous savez, personnellement, j'ai fait ce constat, je le fais régulièrement, c'est triste, dans le cadre de mes activités d'aumônier à la maison d'arrêt de Bonneville, lorsque souvent je suis en contact avec les gens de moins de 35 ans. Il y en a certains parmi eux qui me disent « Mais c'est qui Jésus ?»
Mais je dis « Jésus, Jésus de Nazareth, c'est lui qui est il y a 2000 ans. » Et on n'est pas dans le registre de la foi, c'est juste le Jésus historique. Non. Certains m'ont dit, on me dit, on n'en a jamais entendu parler. C'est qui Jésus ? Je l'ai déjà témoigné auparavant ici même.
Nous vivons dans une société globale sans frontières, qui est davantage, et c'est le constat, oublie Dieu. Une société globale dans laquelle l'Église de Christ a un rôle à jouer. Celui d'être sel et lumière. C'est juste un rappel, pour que nous ne l'oublions pas. Celui de pointer vers Jésus. Celui d'annoncer et proclamer l'Évangile de Dieu. Celui de rappeler au monde que Dieu, notre Dieu, est bien réel. Notre premier rôle à nous est au niveau familial, d'apprendre et d'enseigner nos enfants, nos familles, la parole de Dieu, avec bien évidemment le concours du Saint-Esprit, de la parole elle-même qui ne revient jamais à Dieu sans ses faits, et le concours aussi de l'Église locale. Je termine cette partie par une question réflexive qui n'appelle pas à une réponse. Je vous la laisse. Et c'est une question que je me pose régulièrement. Quel rôle jouons-nous, quel rôle je joue dans notre société locale, dans notre entourage? Quel défi, un grand défi. J'ai envie de dire un beau défi, parce que Dieu l'a promis, ne l'oublions pas. Il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Et que ceux qui l'appellent, il l'équipe. Que ceux qui l'appellent, il l'équipe pour l'accomplissement de cet appel ou de cette mission. Dernier point. Vincent, s'il te plaît, à nouveau, les idées ou l'idée clé de ce troisième point, du verset 31 au verset 36. Je vais lire le texte biblique de Luc 17. En ce jour-là, c'est lui qui sera sur sa terrasse. Il y aura ses affaires dans sa maison qui ne les sonde pas pour les emporter. Et de même, c'est lui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. C'est intéressant ce qu'il dit. Et qu'il ne retourne pas en arrière. Verset 32, rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie, la perdra. Et qui la perdra, la sauvegardera. Vous connaissez la suite. C'est intéressant que Jésus interpelle ses disciples, qu'il enseigne ses disciples, son cercle intime, mais de façon plus large, à l'ensemble des disciples, à l'ensemble des personnes qui l'entourent. Rappelez-vous la femme de Lot. Mais ce qui me semble encore plus intéressant, c'est que il ne développe pas. J'imagine que c'était tellement évident pour eux de quoi ils parlaient, qu'est-ce qu'ils voulaient leur dire, ou en quoi ils voulaient s'interpeller par cette phrase. Rappelez-vous, n'oubliez pas la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie, la perdra, qui n'a pas eu besoin, peut-être, de développer plus. Mais cette parole, que certaines traductions vont traduire, « Souvenez-vous » ou « Rappelez-vous », elle s'adresse à nous aussi. Comme Jésus disait lors de le repas pascal, « Faites ça en mémoire de moi ». Donc, « Souvenez-vous, rappelez-vous », c'est une invitation à faire mémoire, à ne pas oublier la sagesse. De l'expérience c'est ce que la Bible nous enseigne. Vous vous souvenez de la femme de l'œuf? Jésus nous exhorte à nous en souvenir. Mais là, il n'est pas dit, mais qu'est-ce qu'il passé avec elle? Nous connaissons tous l'histoire. Qu'est-ce qu'elle a fait ou pas fait de si important ou impactant? Et Jésus la prendra comme un exemple. Je dirais comme un bon exemple de la nécessité de ne pas faire comme elle a fait. Un exemple à ne pas imiter. Lot, vous vous rappelez, le neveu d'Abraham, sa femme et leurs deux filles habitent une ville qui ne connaît pas Dieu et dont la corruption s'est accrue peu à peu. Vous savez comment ça se passe souvent, même aujourd'hui dans nos vies. Au début, on se permet des libertés, avec un peu de crainte. Puis, comme rien se passe, on continue. On teste, on voit et on continue. On va plus loin et plus loin. Et la conscience qui, au début, était un peu troublée, finit par ne plus être troublée. Dis tout. La différence entre le bien et le mal s'atténue. Commence à disparaître, commence à se relativiser. Et vous savez, la Bible nous dit de Lot, de Pierre 2, le juste Lot. Si on regarde sa vie telle que vous connaissez l'histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi personnellement, j'aurais déjà porté un jugement sur son salut, sur sa vie. Mais le Nouveau Testament nous dit qu'il était juste parce que il vivait tout ça à contre-cœur. On ne parle pas de justification, mais clairement de justifier ce que, comment il vivait. Mais grâce soit rendue à Dieu pour sa miséricorde et pour sa justice, parce qu'il regarde l'intime de nos cœurs et il ne s'arrête pas à un regard extérieur. Comme nous, les êtres humains, pour en tirer des conclusions de la vie des personnes autour de nous. De Pierre, nous apprend que l'homme ne vivait pas comme ses contemporains et qu'il était malheureux de tout ce qu'il voyait et il entendait. Heureusement, notre salut ne dépend pas de nous ni de nos œuvres, mais de l'œuvre des Christ à la croix. Évidemment, Dieu souhaite qu'on vive une vie accorde à ses valeurs. Une vie loin du péché, bien évidemment. Je ferme cette parenthèse. Et je termine avec un texte de Genèse 19, parce que pour mieux comprendre de quoi Jésus nous met en garde, quand il dit aux disciples, il nous dit à nous, souvenez-vous, la femme de Lot, il faudra aller regarder dans l'Ancien Testament. Il faut revenir à l'histoire de la femme de Lot. Genèse 19, verset 15 au verset 17. À l'aurore, les deux anges pressèrent Lot. Lot, il n'avait pas l'air très pressé, je pense. En disant, debout, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici et va-t'en, de peur que tu ne périsses à cause des crimes de cette ville. Comme il s'attardait, oh là là, vous voyez là, Sodome et Gomorre, ils sont dans une destruction imminente. Dieu envoie des anges pour les sauver, pour les faire sortir. Mais il s'attardait. Pourquoi il s'attardait? Peut-être qu'il y avait quelque chose qui le retenait. Ces hommes le saisirent par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles, parce que le Seigneur voulait les épargner. Et ils le firent sortir, ils les conduisirent hors de la ville. Ils sont presque forcés à sortir. J'ai l'impression que c'est comme s'il n'avait pas envie de sortir. Comme s'il n'avait pas envie de partir. Et une fois sortis, les anges vont dire à toute la famille, ou à lui, mais la famille est là, sauve-toi si tu tiens à ta vie. Ne regarde pas en arrière. Première sous-point. Ne t'arrête nulle part dans cette région, sauf toi dans la montagne, si tu ne veux pas périr. Verset 26. Or, la femme de Lot avait regardé en arrière et il était devenu une colonne de sel. Peut-être que Jésus, quand il dit aux disciples, « Souvenez de la femme de Lot », il est en train de leur dire, « Ne regardez pas en arrière. Ne faites pas comme elle de regarder en arrière. Et ne vous arrêtez pas. Allez de l'avant. » Comme Paul nous rappelle en Colossiens 3, « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ. » Assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ce dernier verset, nous pourrions le lire aussi, n'affectionnez-vous pas les choses de ce monde. Paul développe ça largement, je ne vais pas entrer dans les détails. Matthieu 6, 19, va nous dire, mieux ne pas amasser des trésors sur la terre, où le teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais mieux amasser des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, dit la Bible. C'est ce qui est arrivé sûrement à la femme de Lot, et que Jésus souhaite qu'il ne nous arrive pas à nous, en nous disant, souvenez-vous de la femme de Lot. Luc dira plus tard au chapitre 9, quiconque met la main à la charrue, puis regarde dans l'arrière, n'est pas fait pour le royaume des dieux. Ne vous arrêtez pas. Il y a une chanson en espagnol qui dit, et decidido seguir a Cristo. Il y a la version française qui va dire, j'ai décidé de suivre le Christ, je ne reviendrai pas en arrière. Voilà notre Dieu plein de miséricorde qui vient saisir par la main Lot et sa famille et les conduire hors de la ville. Combien de fois Dieu m'a pris moi-même, Pedro, par la main pour me tirer, pour me faire sortir et me conduire ailleurs. Pour me conduire sur de verts pâturages. Et je termine, mes frères et sœurs, avec la dernière slide, comme slide de conclusion. S'il y avait quelque chose à retenir, s'il y avait quelque chose à garder en tête, s'il y avait quelque chose à ne pas oublier, c'est cette formulation, souvenez-vous de la femme de Lot. Ne regardez pas en arrière, suivez le Christ, placez vos yeux dans le ciel, et ne vous arrêtez pas, parce qu'on peut être détourné de notre chemin. Père éternel, je te rends gloire, je te dis merci pour ta parole qui vient nous interpeller et nous parler. À toi la gloire, en Jésus-Christ.